Lizzie présente Le voyant des temples d'Abel Quentin, lu par Laurent Natrella. Au vieux sanglier. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Franz Fanon, Peau noire, masque blanc, 1952. La lune se noyait dans tous les Potomacs. Je mendiais ton amour et ses très grands bûchers. Robert Willow, Massachusetts Avenue, 1951. Partie 1. The winner takes it all. Le gagnant rafle la mise. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Ça veut dire quoi, ça? Vous pensez vraiment que vous pouvez ressentir le dixième de ce que ressent un immigré? Vous ne pensez pas qu'il était temps de les laisser parler, les enfants d'immigrés? De ne plus confisquer leur voix? Jeanne, la nouvelle copine de ma fille, avait un regard dur, la bouche pincée. Elle me faisait penser à une puritaine qui aurait vécu dans l'Iowa, disons, en 1886. Sa mâchoire était contractée sous l'effet d'une souffrance continue. Il était 20h et la soirée était mal engagée. Lorsque j'avais demandé une suze, le serveur m'avait jeté un regard interrogatif. À l'évidence, il n'en avait jamais entendu parler. J'avais dû me rabattre sur un cocktail au concombre ou surnager des graines de sésame. On dirait des fientes de souris naines. Avais-je ricané sans réussir à détendre l'atmosphère? Une tension poisseuse régnait autour de la table. Il était difficile de faire naître en quelques minutes des liens de cordialité entre les êtres humains. Seule Léonie semblait à son aise et buvait bruyamment un thé au poivre du Sichuan en nous écoutant discuter. Cette fille simple et bonne ne pouvait pas imaginer qu'entre deux personnes qu'elle aimait ne naisse pas automatiquement une amitié réciproque. Je bredouillais un mea culpa, tentais de m'expliquer en rappelant que Harlem Désir, le cofondateur du mouvement SOS Racisme, était d'origine antillaise. Pour Julien Drey, je n'étais pas sûr, il faudrait que je regarde, mais il n'est pas impossible qu'il soit quelque chose comme un juif alsacien, ou bien d'Algérie. Je promettais de me renseigner. Nous étions trois autour de la table, moi, ma fille Léonie et sa copine Jeanne. C'était en soi une petite révolution. Depuis 5 ans, j'avais instauré le rituel du dîner dominical en tête-à-tête avec ma progéniture. Aucun tiers n'était accepté. J'avais suivi le conseil de mon ex-épouse, Agnès, de sanctuariser un moment père-fille. Agnès, au conseil si précieux, dont la sagesse me manquait cruellement depuis notre divorce, à présent que je devais tracer ma route solitaire. Léonie habitait à Pontoise, dans le quartier Saint-Martin qui étirait ses rues étroites et humides autour de la gare. Elle ne m'avait jamais invité chez elle, et j'en avais pris mon parti. Sans doute craignait-elle mes sarcasmes lorsque je découvrirais la décoration de sa bonbonnière Butch qu'elle avait dû reconstituer à l'identique après son déménagement avec ses posters de Christine and the Queens et ses effluves de papier d'Arménie. Il était terrible d'inspirer un tel sentiment à son enfant, au lieu d'être le refuge, le regard sous lequel il fait bon s'abriter. De fait, les sarcasmes qui m'échappaient parfois étaient surtout destinés à moi-même. J'en voulais à Léonie de trop me ressembler. Ma fille avait hérité de moi une propension certaine à l'échec, quoique celle-ci ne s'accompagnât pas de l'aigreur paternelle de sa sinistre lucidité. Elle était gaie comme un pinson. Elle travaillait dans le coaching relationnel appliqué au monde de l'entreprise, un de ces emplois qui pullulaient comme des poissons pilotes, des sangsues, aurait dit Marc, autour des industries et des services de l'économie de marché, profitant de l'essor du concept tartufié de responsabilité sociale des entreprises. L'idée pour les entreprises converties au RSE était grosso modo de convaincre le public qu'elles étaient des acteurs du capitalisme à visage humain, que leur gloutonnerie, leur cynisme, leur brutalité connaissaient certaines limites et qu'elles étaient soucieuses du bien-être de leurs salariés, et même, pourquoi pas, de leur bilan carbone. Pour lui donner cher, on payait, mal, des prestataires extérieurs qui apprenaient aux gens à se parler, à libérer la parole dans l'open space. C'est à cela que s'employait Léonie, chaque jour, dans des salles de réunion trop chauffées du quartier de la Défense. Concrètement, cela consistait à organiser des petits jeux auxquels devaient se prêter des cadres atterrés ou rigolards et à diffuser quelques slides de documents PowerPoint qui expliquaient très sérieusement qu'un regard fuyant, en langage non verbal, est un signe de défiance de l'interlocuteur. Parfois, elle dispensait ses conseils à distance, sur Skype. Bref, c'était un boulot à la con. Et il aurait été amusant d'en rire un peu avec l'intéressé en bon camarade. Mais Léonie était un de ces êtres incapables de jeter un bon regard franc sur leurs échecs. De la même façon qu'elle avait prétendu ne plus supporter la vie parisienne pour expliquer son déménagement dans le Val d'Oise, alors qu'il n'était un secret pour personne qu'elle n'était plus en mesure de payer l'exorbitant loyer de son appartement de l'Est parisien. Qu'elle avait prétendu que son couple avec Maëva, sa précédente copine, n'allait de toute façon nulle part lorsque cette dernière l'avait quittée pour une stagiaire. Que les circonstances de cette rupture éclairaient la personne de son grand amour d'un jour nouveau et que le départ de ladite Maëva avec une pétasse à créole et tropézienne était finalement ce qui lui était arrivé de mieux dans sa vie. De la même façon qu'elle avait habillé en couleurs chatoyantes ses déconvenues sentimentales, c'est ainsi qu'elle concluait le récit de chacun de ses retentissants échecs. C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux dans la vie. À l'entendre, chaque gadin était une aubaine formidable. J'aimais me faire dorloter par cette fille joyeuse à la bonté incompréhensible. Léonie faisait partie des saintes du quotidien qui ne brillent par aucun miracle, aucune action spectaculaire. Guérir un homme atteint de la maladie des os de verre, faire couler des larmes de sang à une statue de la Sainte Vierge. Il n'y avait donc aucune chance que l'évêque de Pontoise lance une enquête diocésaine en vue de sa béatification. Lors de mon divorce, il y a 5 ans, elle avait pris mon parti de façon étonnante. Elle était pourtant tout juste majeure, libre de s'installer chez le parent de son choix ou de prendre la tangente. Il était évident que sa vie aurait été plus agréable dans le penthouse de sa mère consultante chez Bain & Company, mais elle avait fait preuve de loyauté. Elle s'était sacrifiée parce qu'elle me savait dans une mauvaise passe. Nous parlons d'une époque sombre où j'écoutais en boucle mes albums de Motorhead dans une semi-pénombre et émergeais chaque matin comme on se réveille d'une amputation. Léonie n'avait pas eu le cœur de me laisser seul et je n'avais pas eu le courage de refuser cette aumône. J'avais accepté, égoïstement. Nous avions été colocataires pendant 2 ans, avant qu'un échange universitaire ne l'envoie passer 1 an à Copenhague. Peut-être, après tout, avait-elle trouvé son compte dans notre cohabitation. Sa mère avait une fâcheuse tendance à broyer Léonie avec ses propres rêves, ses exigences de battante au workaholic. Agnès lui demandait toujours de se surpasser. Elle lui présentait le monde comme une jungle où il fallait aller chercher chaque victoire avec les dents. C'était assez juste et totalement anxiogène. De mon côté, je n'étais pas exactement la figure écrasante du patriarche qui veille sur son clan. Ce rôle avait été naturellement occupé par Agnès. Ma complicité avec Léonie, mon ex-épouse en souffrait comme d'habitude, sans broncher. Jeanne, la nouvelle copine de Léonie, avait insisté pour choisir le resto. Façon peut-être de marquer son territoire, ou du moins d'engager les hostilités sur un terrain où elle aurait l'avantage. Il me semblait avoir entendu Marc citer un vieux stratège chinois à ce sujet, quelque chose du genre « qui ignore la nature du terrain ne pourra faire avancer ses troupes ». Nous nous étions retrouvés au Renaissance, une petite cantine branchée dans le quartier de son bureau, près de la halle Fraissinet. Jeanne était l'associée fondatrice d'une start-up. Je n'avais pas saisi la nature exacte de ses activités, j'avais seulement compris qu'elle s'occupait de solutions Internet. Elle était plus âgée que ma fille et, vraisemblablement, financièrement comblée. J'étais heureux de savoir Léonie à l'abri d'une femme aux idées nettes et à la volonté de faire, au moins pour quelque temps. Rassuré et inquiet aussi. Léonie était démunie, vulnérable avec son amour qu'on sentait déjà dévorant, à la merci de cette fille plus âgée. Aguerrie. Il fallait qu'elle se protège. Elle devrait, concrètement, exiger quelques garanties. Je m'étais promis de lui parler de sujets triviaux à l'occasion, si elle décidait de se marier, je persuaderais Léonie d'opter pour le régime de la communauté de biens. C'est ce que je n'avais pas fait avec mon ex-femme et je le regrettais amèrement chaque jour de ma vie.